Good morning, everyone. Sorry.
Bonjour à tous. Je m'excuse pour le retard. Il y a eu un petit problème avec les microphones. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais vous signaler que lorsque vous êtes assis à la fin de la table, il est vraiment difficile de vous voir quand vous demandez la parole. Hier, j'ai eu plusieurs commentaires dans le sens où je n'ai pas vu des personnes qui demandaient la parole. Donc, je vous demande, si vous voulez prendre la parole, de bien me le faire savoir. Parce que parfois, je n'arrive pas à vous voir si vous êtes au bout de la table. Bon, d'accord. Le premier point de notre ordre du jour, c'est la question sur la protection au premier niveau. Notamment pour les organisations intergouvernementales. Et après la pause café, cette question sera suivie d'un rapport sur la question des variantes d'IDN. Entre ces deux points, nous allons avoir une réunion avec la LAC sur les nouveaux GTLD. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir du café pendant les pauses, aujourd'hui et demain. Je ne sais pas ce que Ginny a dû faire pour pouvoir en arriver là, mais bon, nous aurons notre café pendant la pause café. Et nous en sommes reconnaissants. Sans m'attarder sur ces points-là, je vais donc donner la parole à l'intervenant suivant. Et nous allons donc entendre la perspective de ce groupe sur les organisations intergouvernementales. Et nous allons donc remercier ce groupe de venir faire cette présentation au GAC. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Représentant de l'OCDE prend la parole. Merci, Madame la Présidente, de nous donner cette occasion de parler devant le GAC. Nous croyons qu'il s'agit d'une bonne occasion pour vous, pour nous signaler quelles sont les inquiétudes par rapport à la communauté des ONG. Même si je représente l'OCDE, je ne vais pas parler en représentation de l'OCDE. Comme ma présentation le dit, je parle de toutes les organisations intergouvernementales qui sont au nombre de 38, ainsi que au nom d'autres organisations qui ont manifesté leur inquiétude. Je tiens à vous dire également que je ne suis pas seule ici. Heureusement, je suis accompagnée des gens de la Cour internationale, des tribunaux internationaux, de la OMPI et de la OPU et du CERN. Nous sommes tous ici présents pour répondre à vos questions. En tant que contexte, je voudrais juste vous signaler un petit peu le contexte de notre travail. Cette question du DNS est une question qui a été toujours considéré de très près par les ING, les organisations intergouvernementales. Nous avons des inquiétudes par rapport à ces nouveaux systèmes, et cela depuis un moment, parce que si nous regardons vers le passé, nous pouvons voir que tout cela était bien avant les décisions prises à Singapour. Nous avons au moins une lettre du 23 mars 2005. Deux lettres ont été envoyées en octobre et en août 2010. L'OMPI a envoyé une autre lettre le 1er novembre 2010. Je tiens à vous rappeler également que le GAC lui-même a organisé cette protection qui est reflétée dans les principes du GAC de 2010 lorsqu'on a parlé des sigles que représentaient les organisations internationales. En ce qui concerne votre perspective, on peut vous demander quelles sont vos inquiétudes. Sans vouloir entrer dans le droit international dont on pourrait parler pendant des jours, j'aimerais très rapidement vous dire de quoi on parle. Une OIG est une organisation intergouvernementale. La principale différence entre une ONG et une OIG, c'est que l'organisation intergouvernementale est créée par les États, c'est-à-dire par les États que vous représentez, à savoir par les gouvernements que vous représentez et par les parlements. Ces organisations sont établies par traité et les traités sont ratifiés par les parlements ou les congrès. Nous sommes donc une extension des États. Nous sommes créés par les États pour atteindre un but qui a été défini par l'État en question. Voilà la principale différence entre les OIG et les ONG. Bien évidemment, les ONG ont un but auquel elles doivent atteindre, mais ces organisations ne sont pas créées par les États, ne sont pas créées par le biais d'un traité. Il s'agit d'organisations ascendantes qui ont aussi un objectif auquel elles doivent atteindre et qui est lié aussi au bien public. Mais il ne s'agit pas d'organisations qui sont créées par le biais de l'approbation d'un gouvernement et d'un parlement. Une autre différence importante tient au fait que, par exemple, mon salaire est payé par vous. C'est vous qui payez parce que vous êtes des contribuables dans vos pays. Les OIG reçoivent le soutien de chacun des États et cela veut dire que c'est l'argent des contribuables. Les OIG, donc, reçoivent leur salaire ou leur paiement de la part des contribuables canadiens, espagnols, etc. C'est pour cette raison que les OIG ont un statut spécial que les États leur ont accordé avec beaucoup de privilèges et beaucoup d'immunités. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce type d'immunité. Mais il est vrai qu'il s'agit d'un outil collectif appelé OIG qui doit être indépendant parce qu'on ne veut pas gaspiller l'argent des contribuables en nous disputant dans des tribunaux internationaux. Les conséquences en est qu'une fois encore, de par un traité, parce qu'il y a des traités sur les immunités, vous nous avez accordé, en tant qu'organisation intergouvernementale, des privilèges et des immunités. Cela veut dire que nous ne pouvons pas nous présenter auprès des tribunaux internationaux. Nous sommes protégés par le droit international. Quelles sont les bases de la protection de nos noms et de nos sigles, nos acronymes ? D'après le droit international. Tout d'abord, bien évidemment, il existe plusieurs traités. Mais outre les traités qui établissent notre statut et qui nous créent, il existe d'autres traités qui sont applicables et qui sont pertinents. Je sais que vous les connaissez, mais je voudrais vous les rappeler. Nous avons la Convention de Paris. Nous avons l'accord TRIPS de l'Organisation mondiale du commerce. Le droit des marques. Et vous savez que le traité sur la propriété intellectuelle qui date de 1958, dans son article 16 et son article 12, aborde les questions intellectuelles et de protection intellectuelle. Et cet accord, donc, protège les acronymes et les sigles. C'est-à-dire que nous avons une protection similaire à celle d'une marque commerciale sans devoir passer par les formalités pour défendre nos droits. Donc, à la lumière de ces traités, sur la base de ces traités, des traités que vous, en tant qu'État, en tant que pays, avez signés et ratifiés par le biais de vos parlements, vous, en tant qu'État, vous avez l'obligation de protéger ces organisations pour que les acronymes de ce type d'organisation soient protégés. Je tiens à signaler pareillement que, conformément au droit international, parce qu'il y a une autre convention que les pays membres à laquelle les pays membres ont adhéré, à savoir la Convention générale sur les traités, il est clair qu'une partie de la Convention de Vienne et toutes les parties ont adhéré à la Convention de Vienne à deux ou trois exceptions près. Une partie n'a pas le droit à utiliser son droit national pour ne pas respecter les dispositions du traité. C'est l'article 27 de la Convention de Vienne. Et même si la loi nationale peut ne pas être en ligne avec la Convention de Paris ou l'accord TRIPS de l'OMC, les pays sont pourtant obligés à respecter les obligations internationales. Sur la base du conseil donné le 12 avril 2012 au conseil d'administration de l'ICANN, il a été manifesté que le GAC allait considérer un avis lié à notre protection s'ils étaient convaincus que nous respections les exigences concernant la protection à deux niveaux. Comme je l'ai déjà signalé, nous croyons vraiment que la preuve c'est la preuve de la première année. C'est ce que nous donne le droit international en tant que droit, car ce sont des obligations internationales auxquelles ont adhéré vos gouvernements. Et le non-respect de ces obligations de la part de vos pays les mettrait dans une position de non-respect des traités internationaux. Nous avons mené une étude sur les dispositions des lois nationales et j'espère que vous avez tous lu notre document en date du 4 mars. Nous y avons adjoint 130 lois internationales qui traitent la question des protections au niveau national de nos noms et de nos acronymes. Donc, même si nous pouvons être d'accord avec cette preuve à deux niveaux, nous répondons donc aux critères de cette protection à deux niveaux. Et je vais vous montrer ce que dit le droit international à cet égard. Nous allons donc passer à la diapo suivante. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette question, sur ce sujet, car nous croyons que finalement, ce qui est important dans notre cas, c'est qu'il a son propre mérite, car nous croyons que nous avons une raison légitime pour demander cette protection. Je tiens à signaler ici que vous pouvez voir des faits qui sont corrects et vous pouvez les lire sur la diapo. Je vais passer à la partie suivante de ma présentation qui dit « D'accord, tout cela est ainsi. Mais pourquoi ne peut-on pas faire confiance à ce qu'on possède déjà, à ce qu'on a déjà mis en place ? Tout d'abord, si nous utilisions la même analogie que l'on a utilisée pour d'autres situations, comme c'est le cas par exemple de la santé publique, si l'on disait, par exemple, arrêtons la vaccination parce qu'on peut guérir la maladie, je ne crois pas que ce serait une conclusion logique, car la prévention est toujours meilleure que la guérison. La prévention, c'est toujours mieux que la guérison. Et cela s'applique au monde de la santé, au monde du développement et et ça s'applique aussi à notre monde. Deuxièmement, la guérison a un coût. Et encore une fois, je me demande pourquoi devrions-nous payer ce coût. Et lorsque je dis qu'il y a un coût, nous sommes en train de payer ce coût. Vous êtes ici, autour de cette table. Il y a 7 personnes qui ne sont pas venues à Prague avec cet objectif-là. Nous ne serions pas venus ici si on nous avait accordé cela avant, notre protection qui nous correspond légitimement. Donc, le coût de venir à Prague, cela a un coût. Et ce n'est pas l'argent, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de tous les pays, parce que c'est vous les contribuables, c'est les gens qui habitent dans un pays qui payent pour ce voyage. Et à partir du moment où une organisation internationale doit être efficace, on demande à une organisation internationale d'être efficace et de veiller à ce que l'argent public soit bien dépensé. Et lorsque un grand nombre de pays et de villes font des efforts et demandent à leurs citoyens de faire des efforts, pourquoi devrions-nous dépenser cet argent et ce temps pour entrer dans des mécanismes de guérison alors que nous pourrions très bien résoudre le problème avec une approche de prévention? Comment puis-je expliquer à vos gouvernements représentants à l'OCDE, à l'OIT ou à l'OPU, comment leur expliquer que je dois payer pour acheter un nom de domaine et que je dois utiliser l'argent des contribuables grecs ou des contribuables italiens ou espagnols alors qu'il existe une alternative qui est tout à fait viable, qui est tout à fait acceptable et qui a un sens? La dernière objection à ce mécanisme actuel, c'est que, en définitive, nous n'avons aucune garantie de l'adjudication, d'une adjudication finale et indépendante, parce que dans tous ces mécanismes, nous ne prenons pas les décisions. On peut donner des avis, on peut faire des commentaires. Je ne veux pas dire que notre voix n'a pas de valeur, mais nous ne prenons pas les décisions. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Et dans certains cas, nous sommes obligés à comparaître devant des tribunaux internationaux. Et pourquoi devrait-on dépenser cet argent dans toutes ces démarches? Je connais des avocats aux États-Unis qui font ça pour obtenir des gains, mais pourquoi devrais-je donner de l'argent à des cabinets d'avocats de Los Angeles ou d'autres villes? Pourquoi dois-je leur donner de l'argent? Et pourquoi? Parce que cela va à l'encontre de tous les principes d'organisation des OIG. Après la Deuxième Guerre mondiale, on nous a dit « Vous allez être indépendants et vous ne devrez jamais comparaître devant les tribunaux internationaux ou nationaux. » Des tribunaux internationaux ou nationaux, pardon. Vous avez tous sous les yeux la présentation qui vous a été distribuée. Je ne vais pas lire les diapos parce que ce serait vraiment très ennuyeux. Mais qu'est-ce que nous demandons? Ce que nous demandons, nous croyons, est clair et raisonnable. Je ne vais pas lire la diapo. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais juste prendre la base de données, la base de données Sixter Express, en tant que critère pour préserver les noms des OIG. Quel en est l'avantage? Tout d'abord, elle se base sur la Convention de Paris, à savoir un traité. Deuxièmement, il existe un mécanisme de vérification. Troisièmement, c'est une liste publique et c'est une liste limitée avec des catégories clés. Pour appartenir à cette base de données, il faut prouver que l'organisation a été établie à partir d'un traité. Et de cette façon, il est très facile de savoir si une organisation a été créée par un traité ou pas. Un traité est un document entre des gouvernements qui est signé par tous les pays et qui est ratifié par les parlements. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'étrange et on sait très bien ce que c'est qu'un parlement. Si on appartient à cette base de données Sixter, on peut être inclus dans cette protection. Je voulais donc conclure ma présentation en vous faisant part de quelques remarques toutes simples et je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, les OIG sont des organisations intergouvernementales qui croient avoir des raisons précises pour protéger leur nom au sein du DNS. En définitive, cela n'est pas trop différent de ce que vous faites pour vous-même. Et cela répond à une logique. Pourquoi ? Nous sommes une extension des États, pour ainsi dire. Nous croyons que nous avons les mêmes bases, les mêmes fondements que les États. Et les mêmes caractéristiques spécifiques que les organisations non gouvernementales qui ont bénéficié d'un traitement spécial. Deuxièmement, nous pouvons vous offrir une solution qui est claire et objective, non controversée. C'est une solution qui consiste à ne pas faire appel à une autre partie intéressée, une organisation intergouvernementale géré conformément à l'article 6 de la Convention de Paris, peut le faire. Nous sommes convaincus que nos raisons sont légitimes et nous allons insister. Nous ne voulons pas arriver à une confrontation, mais nous croyons que nos principes sont tout à fait fermes, y compris, d'autant plus qu'il y a maintenant des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés tous les pays. Alors, travaillons ensemble, résolvons d'une fois et pour toujours cette question pour la satisfaction de toutes les parties intéressées, y compris les OIG. Cela nous permettra de travailler sur des problèmes de fond auxquels est confronté l'Internet aujourd'hui et auxquels sera confronté l'ICANN demain. Je vous rappelle que les OIG défendent aussi les politiques publiques dans des domaines qui sont clés pour l'Internet, comme c'est le cas la liberté d'expression et les principes qui régissent le marché. Nous sommes prêts à coopérer et à participer. Afin de trouver une solution, nous voulons continuer à participer à l'ICANN et au GAC, car nous croyons que ce sont tous les domaines qui concernant l'Internet, ce sont des domaines très importants pour aujourd'hui et pour demain. J'espère que le débat portera ses fruits et nous espérons que ce débat soit reflété dans le communiqué final du GAC. Merci de votre attention et bien entendu, moi-même et mes collègues, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Madame la Présidente prend la parole. Merci de votre présentation en ce moment. Je voudrais vous demander si vous avez des questions à poser pour les IGO présentes ici dans la salle ou s'il y a des commentaires à faire. La Corée du Sud, s'il vous plaît. La Corée du Sud prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je suis le directeur d'une division de communication. Je suis très honorée de parler ce matin ici. Nous, dans la République de Corée, nous donnons notre soutien au comité intergouvernemental pour pouvoir protéger le système des noms de domaine, notamment sous les nouveaux GTLD. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons comprendre l'état spécial de toutes les organisations intergouvernementales et de la protection légale. En tant que membre de cette organisation, nous ne voulons pas arriver trop loin. Il s'agit d'une procédure légale pour protéger les noms et les acronymes du DNS, ainsi que les noms au niveau du DNS. Ceci va dévier les fonds ailleurs, dans un site qui ne correspond pas aux intérêts. Je l'ai mentionné dans d'autres organes de l'ICANN, c'est-à-dire j'ai mentionné le rôle de la protection et les niveaux internationaux et les traités internationaux dans plusieurs juridictions. Nous considérons que les IGO respectent les critères et sont basés sur la justification. Et je suggère très fortement que le GAC tienne compte ou accepte la demande des OIG, pour l'exclusion des OIG, des acronymes et des noms pour la restauration du DNS. La présidente cède la parole à la Suisse. Merci, la Suisse.
Buenos días. Je parlerai en français. J'espère que le verbatim suivra. Ça n'a pas l'air. OK. Très bien. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous rappeler que la Suisse est le siège de nombreuses organisations internationales et c'est une des raisons pour lesquelles le problème soulevé aujourd'hui nous tient à cœur. Bien évidemment, le gouvernement suisse soutient pleinement la démarche des organisations internationales et souhaite que le GAC aille dans le même sens. De même que les États ont un traitement spécial pour leur code de pays, il nous semble qu'il est tout à fait normal que les organisations internationales qui émanent aussi des États, comme notre collègue de l'OCDE vient d'ailleurs de le rappeler, donc que les OI bénéficient aussi d'un traitement particulier. Enfin, je dois dire que si les organisations internationales n'obtiennent pas ce statut particulier et doivent consacrer des moyens financiers qui ne sont pas négligeables à la protection de leurs acronymes dans le système Internet, cette approche ne semble pas du tout acceptable. Franchement, nous préférons que l'argent soit consacré à des projets des organisations internationales, tels le soutien à des projets à des pays en voie de développement, plutôt qu'à devoir payer des avocats, des consultants et des taxes pour faire enregistrer leurs acronymes. Merci, Madame la Présidente.
Merci, la Suisse, de votre présentation. Le Royaume-Uni a la parole et puis le Portugal. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, bonjour à tous et merci de votre présentation qui a été très claire. très exacte, très articulée, parce que vous avez exprimé les questions qui nous préoccupent et qui nous concernent et l'intérêt tout particulier des contribuables. Tout cela a été très utile. Nous tenons à vous remercier. Et nous reconnaissons toujours, c'est bon d'avoir l'occasion de débattre avec vous et avec nos collègues des IGO, des OIG, pardon, qui sont ici pour nous aider à mener à bien nos décisions. Ma question concerne ce qui suit. Je me demande si vous avez le temps ou si vous aurez le temps pour regarder le rapport préliminaire sur la protection des noms des organisations internationales au sein de la GNSO, c'est-à-dire le Conseil de la GNSO a avancé sur la question et sur le rapport dont on parle. Je demande si vous avez eu l'occasion, ou sinon j'espère que vous l'aurez, parce que cela contient une recommandation que le Conseil de la GNSO va prendre en considération pour voir si l'on démarre ou non ou on ne démarre pas le développement un processus de développement de politique pour pouvoir développer tout autre conseil de politique afin de créer des protections supplémentaires. Je me demande si vous avez des commentaires sur ce processus, notamment si le Conseil de la GNSO a initié une démarche parce qu'on est au-delà de la présentation des nouveaux GTD de la série. Et je voudrais savoir si vous avez des commentaires sur ce qui arrive dans cette première série, si vous avez des réflexions dans ce sens. Je vous remercie de vos commentaires. Bien entendu, le GAC et la GNSO vont travailler conjointement sur la prise de décision. Et beaucoup parmi nous, au sein du GAC, on va être préoccupés d'aider à ce processus initié par le Conseil de la GNSO. Merci. Le représentant du Portugal prend la parole. J'ai oublié de mentionner quelque chose d'important. C'est Nicolai Bessonov qui parle. Nous avons lu le rapport et, en fait, l'OCDE, conjointement avec des organisations internationales, a soumis le rapport aux commentaires du public et je veux demander à mon collègue de distribuer maintenant, si vous me donnez la permission, notre rapport en réponse à la GNSO. On devrait mieux protéger l'environnement, hein, tant de papier. Vous allez voir, en définitive, notre réaction. Nous croyons toujours que la meilleure manière d'avancer est celle que nous proposons. Nous sommes préoccupés par le processus de développement de politique qui n'aurait aucun délai, aucun cadre. Et je ne dis pas cela de manière péjorative, parce que la démocratie est un exercice important et cela prend du temps. Plus que jamais, le temps, c'est de l'argent. Voilà pourquoi on n'a pas de temps on n'a pas d'argent non plus. Et c'est une manière de répondre à la deuxième question. Non, je n'ai pas pris le temps de lire 1900 pages ou je ne sais plus combien. Et pourquoi devrais-je consacrer mon temps et votre argent à lire 1900 candidatures sans les avoir vues? Et on revient donc au péché originel, si vous me permettez ce mot biblique. Je devrais voir la liste et voir si j'ai quelque chose à faire s'il y a une raison pour ce faire, et la raison est très simple à savoir, on a la garantie qu'il n'y a pas une confusion dans la liste. Et vraiment, je suis désolée que nous devions utiliser votre argent, l'argent de mon personnel et le vôtre pour lire cette liste et pour que tout soit plus compliqué. Je dois faire cela non seulement pour l'OCDE, mais tous mes collègues aussi pour leurs propres objectifs. Donc, c'est une chose qui se multiplie. Nous multiplions le travail, et vous le savez très bien parce que vous faites face au même problème. Je crois que vous seriez sensé et sensible. Je dois revenir à ma position. On me dit qu'il n'y aurait pas de problème, mais je vais devoir le vérifier. Merci beaucoup. Merci de votre réponse, dit la présidente. Le Portugal a la parole et puis la Norvège. Merci. Je vais parler en portugais. Comme les membres du GAC le savent déjà, le Portugal a défendu lors d'autres réunions, et notamment dans la réunion du Costa Rica, en faveur des organisations intergouvernementales doivent être protégées a priori dans le registre des GTLD. Les raisons présentées par le Portugal dans des réunions précédentes, bien qu'elles n'ont pas été documentées de manière légale, comme une présentation des OIG qui participent ici, sont en définitive les mêmes. Cette protection devrait être garantie pour les raisons présentées et pour des questions de principe également. Mais pour nous, le Portugal, il est absolument clair que s'il existe des organisations non gouvernementales, ces protections ayant été mentionnées comme le cas de la Croix-Rouge et le Comité olympique international, cette protection devrait être donnée à des organisations plus qualifiés pour ce genre de soutien, pour recevoir ce type de soutien. Voilà pourquoi il faudrait les admettre et nous devrions prendre en considération ces raisons de principe déjà mentionnées. Et deuxièmement, suivant les circonstances de la création, il y a aussi des raisons de fond. Je vous remercie. Merci le Portugal, dit Madame la Présidente, la Norvège et puis un rapport de l'IPU. Merci Madame la Présidente. Merci de la présentation de l'OCDE en représentation des OIG. Les CAN se sent frustrés, c'est-à-dire perçoit la frustration. Et comme vous le savez bien, on a tous demandé aux représentants des gouvernements ici présents de prendre des décisions de politique par rapport au gouvernement. Comme vous l'avez mentionné dans votre présentation sur les principes des GTLD, en mars 2007, puis après, nous avons demandé la protection des noms des OIG. Voilà pourquoi je crois qu'il s'agit là d'un bon point de départ pour ce débat. Nous n'allons pas avoir le temps suffisant d'entrer dans les détails lors de cette session. Mais c'est ce que nous voulons faire en tant que gouvernement pour réussir à ce que le Conseil de l'ICANN prenne les décisions nécessaires pour protéger l'intérêt public et pour protéger l'intérêt public. Nous, au sein du GAC, nous avons donné notre avis concernant la protection des noms et des acronymes Et sur la base de cet essai de deux niveaux avec la protection des marchés internationaux et les lois internationales, je crois qu'il serait important pour le GAC et il faut penser à ce que d'autres noms et d'autres sigles jouissent de la protection, comme lors de cette série. Ce serait bien pour le GAC de discuter cette question et puis le présenter dans les séries consécutives des GTLD, tout au moins pour le premier niveau. Je ne vais pas parler du deuxième niveau. C'est une discussion à part et bien plus vaste. Mais je crois que vous avez très bien expliqué cela dans votre présentation et vous avez établi une base pour faire le débat au sein du GAC. Vous nous avez donné des arguments très utiles pour une discussion à ce sujet. Merci beaucoup. Merci la Norvège. Madame la Présidente a la parole. Je crois que cela est très utile pour qu'il y ait une approche nous permettant d'avancer. L'UPU prend la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais parler en portugais, mais je vais continuer à parler en anglais quand même. Pour continuer avec les considérations présentées par l'OCDE, je voudrais vous remercier d'avoir pris cette initiative et de parler en notre représentation. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela et nous donnons notre soutien à ce qui a été proposé. Nous voulons revenir à la question de Marc, le représentant du Royaume-Uni, qui souligne encore une fois que l'Union postale internationale a présenté des questions au GAC sur les TLD dans les dernières années et la plupart de ces discussions ont trait à des questions de principe qui sont applicables aux organisations intergouvernementales. Voilà donc pourquoi nous sommes contents d'avoir obtenu votre soutien et tout progresse plus rapidement pour le lancement de ce domaine. Mais en revenant à la question du Royaume-Uni, l'Union postale universelle a présenté plusieurs commentaires basés sur le document préparé par l'OCDE avec quelques changements un peu ici, un peu par là. Et tout cela est à la disposition du public, à la disposition des membres du GAC, pardon, et avec des commentaires pour clarifier certaines incohérences de la version préliminaire de la GNSO. Je voudrais vous rappeler également, et ceci est contenu dans les commentaires que nous avons présentés, toute approche ayant besoin de l'adaptation du GAC ou de l'ICANN doit être basée sur un standard objectif et sur une base légale précise. Il faut rappeler aussi que l'ICANN, y compris les membres qui fournissent du Conseil, doit être cohérent avec les statuts parce que cette organisation doit mener à bien ses activités conformément aux conventions internationales et au droit international ainsi qu'au droit local. Et tout cela est en ligne avec le mandat du GAC pour pouvoir donner du conseil sur les activités de l'ICANN dans la mesure où tout cela est lié aux préoccupations des gouvernements, des traités. Et ces préoccupations ont été présenté ici dans la même session, de sorte que s'il y a un groupe au sein de l'organisation qui doit respecter ces principes et doit donner un conseil clair au conseil de l'ICANN, c'est justement le GAC. Voilà pourquoi nous sommes ici et nous vous proposons, nous vous donnons tous ces principes et ces dispositions statutaires pour que vous soyez en mesure de nous donner plus de conseils pour l'établissement des politiques. Voilà donc pourquoi nous ne pouvons pas renforcer encore plus cette équation et le conseil d'administration doit faire une évaluation correcte et prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des États membres des États membres de ces organisations. Encore une fois, nous vous remercions de l'occasion de pouvoir nous exprimer. Et je veux clarifier une chose pour ce qui est des tests des deux niveaux. Je crois que Nicolas l'a exprimé très bien. Les OIG vous ont donné beaucoup d'informations, même sur les dispositions du droit local applicables aux OIG. Cela ne doit pas être considéré comme une doctrine valide parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de l'approbation des lois locales pour assurer l'application des traités. Je vous remercie, Madame la Présidente, de l'occasion de pouvoir parler. Madame la Présidente prend la parole. Nous n'avons plus de temps. J'ai deux demandes pour prendre la parole et puis on va clôturer la séance. Voy a hablar.
Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Je voudrais intervenir au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation intergouvernementale qui regroupe 75 pays et gouvernements membres et qui a été créée en 1970. Je voudrais, au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, remercier M. Bonici et le groupe qui a fait le travail qui a été présenté là et qui a donné des arguments extrêmement pertinents sur lesquels je ne reviendrai pas, mais ils ont tout notre soutien et la francophonie adhère totalement sans réserve à ce qui a été dit et proposé. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour remercier l'ensemble des pays qui soutiennent cette position qui va permettre à ce que nous puissions attendre ce que vous attendez de nous, parce que nous sommes des créations des États pour servir les États avec les fonds publics qui doivent être utilisés de manière judicieuse. Je remercie donc le GAC pour le soutien qu'il apportera à cette proposition. Merci.
Thank you for that, Le Franco.
Merci aux membres de la francophonie. Le dernier orateur, le Danemark. Merci, Madame la Présidente. Merci à l'OCDE et aux autres représentants des OIG de leur présentation. Je crois que tout cela a été très utile pour clarifier les arguments. Et je crois que ceci sera une bonne base pour continuer à débattre tout cela au sein du GAC. Si nous devons élargir les principes de protection du Comité olympique international et de la Croix-Rouge à d'autres organisations, je crois qu'il s'agit là d'un débat que nous allons soutenir. Ceci a été présenté en août 2011. On l'a inclus dans la liste du GAC et maintenant que nous avons reçu des arguments clairs, il y a une bonne base pour continuer avec ce débat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Reprend la parole. Eh bien, une dernière demande de la part du Sénégal. La représentante du Sénégal prend la parole. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'OCDE pour cette présentation si claire. Je remercie la clarté avec laquelle vous avez exprimé ces problématiques. Le gouvernement du Sénégal donne son soutien à la protection des noms et des acronymes. Et les organisations intergouvernementale et internationale. Merci, le Sénégal. Madame la Présidente prend la parole. J'ai encore une autre demande. Merci, Madame la Présidente. L'orateur n'est pas identifié. Je ne peux pas identifier des noms dans la liste de candidature. Le Japon va partager cette position et nous voudrions commencer le débat de la protection de ces noms. Monsieur le Président prend la parole. Le Japon, s'il vous plaît. Je ne peux pas identifier qui veut parler, mais je vois que vous demandez la parole. Prenez la parole et identifiez-vous, s'il vous plaît. Je parle au nom du Pakistan. Il y a une suggestion. La question présentée par les OIG est importante et le GAC doit discuter de ces méthodes avec le Conseil pendant la réunion programmée pour aujourd'hui avec le Conseil. Cette réunion aura lieu vers 4 heures de l'après-midi. Madame la Présidente prend la parole. Merci. Alors, avec cela, nous clôturons la session de ce matin. Merci de vos présentations. Les questions sont très bien identifiées. Nous avons pris note de vos présentations, des documents que vous avez fait circuler pour ce qui est du rapport de la GNSO. Nous allons continuer à traiter de ce sujet et nous allons nous concentrer dans l'avenir spécifiquement pour aborder cette question. On a besoin de débattre encore au sein du GAC tous les détails, mais nous avons un bon point de départ. Merci beaucoup et bonne chance. Maintenant, nous allons nous réunir avec la LAC. Je vous demande donc, les représentants de la LAC, restez ici parce que nous sommes en retard d'après notre ordre du jour.
Basically, acronym.